à fond dans la mémoire collective. Le château de Neuschwanstein reste indissociable du destin de ce souverain fantasque. Et ce sont autant son architecture atypique que la fin tragique de son commanditaire qui suscite la curiosité de ses très nombreux visiteurs.
Il n'y a pas que des Allemands ou des Bavarois nostalgiques de la royauté qui viennent voir Neuschwanstein. L'engouement est mondial.
Avec sa silhouette popularisée par Disneyland, Neuschwanstein est devenu l'archétype du château de contes de fées. C'est aussi une attraction touristique majeure qui accueille près d'1,5 million de visiteurs par an. Et chacun d'entre eux veut repartir avec une photo souvenir.
Neuschwanstein attire énormément de monde et nous en sommes très fiers. C'est important pour nous de le préserver, mais aussi de faire en sorte qu'il laisse aux visiteurs un souvenir inoubliable.
Mais l'édifice qui voit pas...
Bonsoir, vous écoutez Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et ce soir, avec Jean-Mathias en face de moi.
Nina Simone.
Oui, bien Simone, sûr, vous venez d'entendre Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life. Un morceau de 68, voilà, magnifique, qu'on pourrait, qui aurait été, en fait, on aurait pu le passer en boucle, ça aurait été vachement mieux que nous. Mais, comme on est affreux et méchant, on va parler. Et, avec donc José Oplatine, qui a choisi le morceau de Nina Simone, on va vous parler avec Jean-Mathias ce soir d'un petit ouvrage qui est sorti récemment. Et c'est une des conférences inaugurales du Collège de France. Donc ça a été édité. Ah non, c'est plus vieux que je pensais, c'est 2020. Et la conférence, c'est à peu près 2020 aussi. Donc en gros, la tradition, c'est que quand quelqu'un est nommé au Collège de France, il doit faire une espèce de leçon un peu officielle, leçon inaugurale, où il expose ses projets de recherche. Et là, c'est le projet de recherche donc de Didier Fassin. Et c'était une chaire annuelle, c'est-à-dire qu'il était là que pour un an. Et ça s'intitule « De l'inégalité des vies ». Et donc ça a été publié, c'est le Collège de France Fayard. Depuis, le Collège de France a repris la main sur l'édition, et donc ils éditent eux-mêmes tout seuls leur truc. Là, c'était encore Fayard. Et voilà, donc c'est un petit ouvrage consacré, c'est une chaire de santé publique, chaire annuelle de santé publique, donc Fassin est médecin.
Oui, à l'origine. Après, on peut peut-être dire deux mots sur Fassin lui-même, parce qu'effectivement, il y a deux leçons inaugurales de Fassin, parce que donc ça c'est la première qu'il a donnée en 2019. Tu l'as dit, pour une chaire annuelle. Hein, ça existe au Collège de France, des professeurs qui sont invités pour un an. Et 3 ans après, il a été élu définitivement comme professeur titulaire au Collège de France. Et donc il y a une autre leçon de Didier Fassin. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'ailleurs. Des gens qui ont fait de leçons inaugurales. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça. Et donc la deuxième s'appelle Les sciences sociales partant de crise. Donc ça, c'est sa leçon un peu officielle. Et bah, c'est ce qu'on se disait un petit peu juste avant. Là, en fait, pour avoir lu les deux, je trouve que la première est meilleure que la deuxième. La deuxième est intéressante. Hein, y a pas de problème là-dessus. Mais celle-ci, là, donc, qui est une leçon, comme tu dis. Hein, c'est un format. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un format qui est assez contraint. C'est-à-dire qu'en fait, il doit saluer l'institution, rendre hommage à l'institution du Collège de France en tant que telle. Donc, en général, il est de bon ton aussi de citer
ses prédécesseurs, ses inspirateurs,
voilà, qui ont œuvré également au Collège de France. Bon, ce qu'il fait, effectivement, bon. Mais, après, c'est pas les pires, hein, en général, en termes de niveau. Donc, ça donne des interlocuteurs qui sont souvent intéressants. Et donc, celle-ci, effectivement, comme tu dis, ouais, c'était De l'inégalité des vies, hein, c'est le titre de cette leçon, chaire de santé publique, et qui était, en fait, je crois, là-dessus, hein, sur ce thème-là. C'était le thème de ces cours au Collège de France en 2019. On en parlait rapidement juste avant de prendre l'antenne. Là, moi j'ai trouvé qu'elle est. Bon, j'en ai lu plusieurs, hein, en fait, des leçons inaugurales, et celle-ci, elle est assez remarquable. Oui. C'est un très bon texte, très bon texte. Alors, faut dire, c'est vraiment accessible, hein, c'est-à-dire que ça fait une soixantaine de pages en petit format.
C'est pas du tout jargonnant.
Pas du tout. Voilà, c'est bourré d'exemples, bourré de données concrètes.
C'est assez érudit, mais c'est pas non plus envahissant.
Non, pas du tout.
Donc, c'est quelque chose qu'on peut assez facilement lire, je crois.
Ouais, c'est très accessible.
Très, très accessible.
Et comme tu disais, en fait, c'est quelqu'un qui a au départ une formation de médecin, hein, donc c'est-à-dire qu'il le raconte d'ailleurs. Il a commencé à pratiquer en tant que médecin, plutôt sur des situations d'urgence ou en tout cas des situations humanitaires tendues.
Oui. Bah, très récemment, il était pas loin de Gaza.
Il était pas loin de Gaza. Il vient de se faire allumer d'ailleurs aussi récemment à propos d'un texte. Sur la notion de génocide, ou en tout cas de structure génocidaire de la politique israélienne à Gaza, il s'est fait allumer dans les 24 heures par d'autres éminents collègues. Il a tenu la position de manière assez argumentée et intéressante. Et puis bon, quand c'était il y a déjà quelques semaines. Oui. Et quand tu vois effectivement l'évolution de la situation sur Gaza, tu te dis que c'était pas forcément inutile d'avoir au moins ce signal d'alarme-là, même si Netanyahou n'est pas abonné au Collège de France. Et après, sur sa bio à lui, on peut dire, bon, quand même aussi, pour pas qu'il y ait de confusion, c'est le frère aîné d'Éric Fassin. Et alors, Éric Fassin, c'est aussi un spécialiste, en fait, de sciences sociales, mais qui lui travaille davantage sur les questions de sciences sociales plus pas militante en tant que scientifique, mais sur les questions d'intersectionnalité, donc les questions notamment de discrimination raciale, de discrimination sexuelle, et le plus souvent sur le combo des deux. Donc c'est une des bêtes noires des chasseurs anti-woke, Éric Fassin. Voilà, donc Éric Fassin est le petit frère de Didier Fassin dont nous parlons ce soir, ce qui fait une famille, ma foi, fort diplômée et fort savante.
C'est quoi, c'est un affreux individu qui dissout à la fois la nation et la lutte des classes dans l'intersectionnalité ?
Non, il dissout rien du tout, il s'intéresse...
C'était une boutade,
Jean-Marc. Il s'intéresse aux discriminations et du coup... Bah, il se trouve qu'il dissout la nation et
et la lutte des classes.
Enfin, voilà, c'est pas ces paradigmes épistémologiques comme on dit dans les milieux autorisés. Voilà. Donc effectivement, tous les deux, on était d'accord pour dire que bon, non seulement c'est accessible, c'est érudit, c'est informé et en même temps très très accessible et très facile à lire. Comment tu résumerais son point de départ, en fait, il part en fait des définitions classiques qui sont celles des inégalités. Mais donc son sujet, c'est de l'inégalité des vies.
Moi, je dirais que c'est une analyse en quelque sorte de en quel sens on peut parler d'inégalité des vies, à la fois au niveau de l'inégalité et au niveau des vies.
Ouais.
C'est-à-dire, il n'y a pas simplement en quelque sorte un sens biologique auquel on pourrait s'attendre en tant que médecin. Il va historiciser le problème en s'inspirant de Foucault, mais contrairement à Foucault, il va réintroduire, je crois, le problème de l'inégalité que Foucault aborde jamais.
Mais c'est la question, il a une approche à la fois quantitative,
oui,
et qualitative.
Oui.
Voilà. Et en fait, une des conclusions auxquelles il arrive, c'est que la notion d'espérance de vie,
oui,
doit être comprise dans ces deux sens-là. C'est-à-dire qu'en fait, l'espérance de vie, elle se mesure à la fois en quantité, c'est-à-dire en durée,
en nombre d'années de vie,
qu'on peut espérer effectivement projeter. Et en même temps, espérance de vie, pourquoi c'est pour lui, c'est aussi ce qu'on est en droit d'attendre d'eux,
oui,
en termes plus qualitatifs, ce qu'il appelle le biographique,
opposé au biologique.
Voilà. Et alors ça c'est intéressant, mais il me semble que c'est les premières pages qui m'ont moi le plus impressionné, parce que il part en fait des définitions classiques des inégalités. Il part de Rousseau et d'un texte très célèbre de Rousseau qui s'appelle Le discours sur l'origine des inégalités, dans lequel Rousseau finalement distingue en fait les inégalités qui sont des inégalités naturelles. Alors ça va être des inégalités en termes de santé, en termes de constitution physique.
Oui. On peut lire, Rousseau: je conçois dans l'espèce humaine deux sortes d'inégalités, l'une que j'appelle naturelle ou physique, parce qu'elle est établie par la nature et qui consiste dans la différence des âges, de la santé, des forces du corps et des qualités de l'esprit ou de l'âme. L'autre qu'on peut appeler inégalité morale ou politique, parce qu'elle dépend d'une sorte de convention et consiste dans les différents privilèges dont quelques-uns jouissent au préjudice des autres, comme d'être plus riches, plus honorés, plus puissants qu'eux. Et il ajoute qu'entre ces deux inégalités ne peut exister de liaison essentielle, car ce serait demander, en d'autres termes, si ceux qui commandent valent nécessairement mieux que ceux qui obéissent.
Et en fait, tout est là, parce que tout est là dans la conception classique des inégalités. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les inégalités de fait, peut-on dire. Donc, les inégalités entre individus du fait de de leur patrimoine génétique. On n'en parlait pas à l'époque de Rousseau, mais on dirait ça. Et puis, d'autre part, les inégalités de droit. C'est-à-dire, en fait, celles qui sont fixées et produites par, notamment par les lois et par les types de gouvernement, et qui ont disons une dimension de convention. Donc elles sont construites, elles peuvent évoluer au cours du temps, elles n'ont rien de naturel. Et surtout, le point très important, c'est que Rousseau dit, en fait, entre les deux, il n'y a pas de lien. Alors ça, il faut mesurer ce que c'est que cette distinction-là, parce qu'elle est, extrêmement puissante en fait au niveau conceptuel. C'est-à-dire qu'en fait, tout le travail de Rousseau, pratiquement dans toute son œuvre, ça a été de séparer ces deux types d'inégalités. C'est de dire qu'à partir d'inégalités de fait que personne ne peut contester entre les individus, on ne peut pas tirer d'inégalités de droit. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pas parce que les individus, certains vont, sont plus souffreteux ou d'autres plus forts physiquement, que les choses doivent se passer ainsi. Et que donc la loi doit instituer des privilèges aux plus forts par rapport aux plus faibles, ou ce genre de choses. Donc évidemment, Rousseau, il raisonne au 18e, il est dans un cadre où en fait son objectif, c'est d'abattre les privilèges héréditaires. Un peu l'esclavage aussi, pas tellement chez lui, mais chez ses lecteurs, ça va être ça. Mais la cible, c'est les privilèges héréditaires. Les privilèges héréditaires, c'est évidemment un système de droit. Et tout le travail de Rousseau, on n'est pas complètement sorti de cela, et c'est une matrice qui en même temps est très puissante, c'est que ça consiste justement à distinguer les deux. Oui. Et en fait, ce que dit Fassin dès le départ...
Est-ce qu'on pourrait reformuler en disant qu'on ne peut pas justifier des inégalités sociales par des différences d'inégalités naturelles
entre les individus, exactement. Et en fait, ce que Fassin culbute en fait dès le départ, c'est cette séparation radicale entre les deux. Et il le fait avec un argument qui est très fort, c'est qu'il dit qu'en fait, les inégalités, elles se mesurent statistiquement. Oui. Elle se mesure statistiquement, et c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas à l'échelle des individus, en fait, qu'il faut mesurer les inégalités, mais que, en fait, pour comprendre ce que c'est que des inégalités dans une société donnée, en fait, il faut faire des statistiques et lire des statistiques. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est essentiel, parce que, en fait, ce raisonnement statistique-là, il déplace complètement, en fait, la question. Alors, à l'époque de Rousseau, en fait, les statistiques, elles n'existent pas, ou elles sont balbutiantes, c'est-à-dire qu'en fait, on sait calculer des moyennes, ou ce genre de choses, mais Rousseau, il est contemporain, en fait, du démarrage, en fait, de ces raisonnements-là. Et raisonner à titre statistique, c'est souvent assez perturbant, parce qu'en fait...
Sachant que la base des probabilités, c'est Pascal, c'est un siècle avant Rousseau, à peu de choses près.
Mais que c'est pas appliqué aux sociétés.
C'est ça. Et passer de la probabilité ou du jeu de dés, finalement, à une application statistique à des grands nombres, ça, c'est encore une chose mathématiquement aussi. Et politiquement.
Et bien sûr. Et historiquement, en fait, les statistiques, en fait, quand est-ce qu'elles ont commencé à s'intéresser à des populations, c'est notamment sous l'impulsion des compagnies d'assurance et des banques. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'évaluer des risques. Et donc, pour évaluer des risques, en fait, on peut pas simplement s'en tenir à des infos qu'on n'a pas ou qu'on a sur un individu. Il faut qu'on puisse situer un individu dans un échantillon de population donnée et qu'on ait des informations à l'échelle de cette série-là et de cet échantillon-là. Et en fait, ça change à peu près tout, ça. C'est-à-dire que on ne considère plus un tel ou monsieur machin, madame bidule, voilà. Non, on considère telle population ou tel échantillon de population, et dans cet échantillon de population, on peut établir des régularités statistiques, et c'est elles qui vont permettre de mesurer des inégalités. Et ce sont des inégalités qui sont réellement sociales.
Et là, il cite un gars que je connaissais, j'en avais utilisé en histoire, c'était Louis-René Villermé, sur les classes ouvrières, qui publie en 1830 un ouvrage qui s'intitule « De la mortalité dans les divers quartiers de Paris, Et le gars va faire des recoupements qui n'avaient été jamais faits auparavant. Il va, par exemple, faire un recoupement entre le taux de mortalité et le taux d'imposition. Et il va s'apercevoir d'une chose, c'est que là où le taux d'imposition est le plus bas, le taux de mortalité est le plus haut. Et à partir de là, il va en tirer la conclusion que, d'une certaine manière, alors comme il le formule ça, c'est que...
C'est que plus tu paies d'impôts, plus tu vis longtemps.
C'est ça, c'est que les... Oui, évidemment, moins t'en payes, moins tu vis longtemps, parce que moins t'es riche, et donc moins t'as de quoi conserver ton existence. Et Fassin commente ça en disant « Les différences observées face aux aléas de la vie, et donc de la mort aussi, commencent dès lors à être comprises non comme des phénomènes naturels, donc là, on était dans Rousseau, le phénomène naturel. Tu dis, vous mourrez plutôt du fait de votre patrimoine génétique. Donc non comme des phénomènes naturels plus ou moins aléatoirement distribués, mais comme des inégalités sociales obéissant à des lois statistiques et témoignant d'injustice. Un autre fait qui a pu être... Alors, il ne le mentionne pas dans son ouvrage, mais qui avait été mentionné, qui a été étudié à l'époque, c'est quand on a commencé, à partir de Gauss, à faire des espèces de moyennes, avec la courbe, la fameuse courbe en cloche, et qu'on a mesuré la taille des gens qui allaient au service militaire en France. Où on s'est aperçu qu'effectivement, la taille moyenne des pauvres était inférieure à la taille moyenne des gens plus fortunés. Et là où il y avait, ça témoignait non plus d'une différence naturelle, mais d'une inégalité face à la nourriture disponible quand on est enfant.
Et je pense qu'effectivement, tu as raison d'insister là-dessus. Ça veut dire que du coup, cette distinction entre des inégalités qui seraient naturelles et que tu mesures à l'échelle des individus, et des inégalités qui, par ailleurs, seraient créées par des lois injustes ou par des privilèges héréditaires comme sous l'Ancien Régime, en fait, tu ne peux plus séparer réellement les deux parce qu'en fait, tu as cette réalité statistique-là qui vaut à l'échelle de la société. Donc, c'est plus des inégalités naturelles, c'est des inégalités sociales. Mais ça veut dire aussi, et ça, je crois que c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, en fait. Et il insiste, et je trouve que sa leçon aide à comprendre ça. Ça veut dire que c'est ni naturel, ni quelque chose qui a du sens à l'échelle d'un individu.
Oui.
Et ça veut dire que tu peux avoir des individus plus grands que la moyenne.
Pauvres. Bien sûr.
Tu peux avoir des individus pauvres qui vivent aussi longtemps, voire plus longtemps que certains riches. Mais en fait, ça veut dire que c'est pas ça qui est pertinent. C'est-à-dire que tu peux multiplier des contre-exemples individuels. En fait, l'inégalité sociale, elle existe à l'échelle de ce collectif-là. Et l'air de... Alors, dit comme ça, effectivement, tout le monde dit, bah oui, bah, c'est évident, etc. Oui, sauf qu'en fait, quand c'est difficile à infuser personnellement, en fait, une information comme celle-là. Et je trouve que c'est éclairant, parce que si tu veux, lorsqu'on parle de racisme systémique ou lorsqu'on parle d'inégalité homme-femme, par exemple, tu auras toujours en face, tu vois, le réac de service ou le raciste de service ou le sexiste de service qui te dit, mais n'importe quoi, moi, les femmes que je connais, etc., etc. Et d'ailleurs, il peut arriver, quand il est de bonne foi, que ce soit vrai.
Que les exemples qui sortent ne soient pas des mensonges.
Que ce ne soient pas des mensonges, et en même temps, ça ne change rien.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'en fait, si tu prends la discrimination raciale ou la discrimination sociale, et la discrimination raciale ou sociale, en fait, elle existe dans les statistiques.
C'est-à-dire qu'elle existe tout court.
C'est-à-dire qu'elle existe tout court, mais elle existe, mais pas au sens où c'est quelque chose que tu peux expérimenter forcément. Alors, tu peux...
C'est pas quelque chose que tu vas vérifier dans tous les cas, parce que c'est quelque chose de statistique et pas quelque chose de je sais pas comment dire, distributif ou comment dire, c'est pas une loi de la physique,
c'est aussi quelque chose, la difficulté me semble-t-il, c'est aussi quelque chose que tu ne peux pas t'approprier à titre personnel. Tu peux pas te l'approprier à titre personnel, c'est-à-dire que tu peux tu peux être une femme noire, pauvre, et vivre longtemps.
Après, mais on va peut-être faire une pause parce que justement, il va revenir là-dessus aussi. Parce que justement, là, il fait aussi une grosse différence entre le quantitatif et le qualitatif.
Et le qualitatif.
C'est-à-dire qu'il rajoute aussi une couche dans l'inégalité. Ouais. C'est du côté biographique.
Du côté biographique. Mais cette bascule-là, en fait, je la trouve, pour moi, elle est centrale. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quelque chose qui est compliqué parce qu'il faut bien mesurer. Rousseau, en fait, derrière, c'est un argumentaire extrêmement puissant pour réformer les lois, pour lutter contre les injustices légales. Et pour justement contester le fait que la loi entérine en fait des pseudos inégalités naturelles qui du coup auraient leur traduction dans les lois.
Mais là, il faut aller plus loin.
Et c'est ça. Et là, il faut aller plus loin. Et ce qu'il y a de puissant chez Rousseau, c'est que c'est une pensée qui est potentiellement ultra progressiste. En fait, c'est celle des Lumières, le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, etc. C'est du Rousseau. Et en même temps, ce que Fassin montre, c'est qu'en fait, avec l'éclosion, avec le développement et avec la maturation d'un raisonnement statistique et de données statistiques, en fait, tu peux pas te contenter de cela. Tu peux pas te contenter de cela. Et ça, je trouve qu'effectivement, cette bascule-là, elle est cruciale, en fait. Et tu pourras nier les inégalités sans mentir parce que tu les as jamais expérimentées autour de toi à titre personnel, soit chez les autres, soit chez toi. Mais il n'empêche que les réalités statistiques sont là. Voilà. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, tu ne peux pas en fait déconnecter aussi clairement, si tu veux. Alors ça, c'est effectivement, on va expliquer ça après la pause. C'est pas pour autant revenir à des inégalités naturelles, parce que justement, c'est la société qui fabrique ces statistiques-là.
Oui, qui fabrique ces inégalités.
Qui fabrique ces inégalités dites naturelles. Mais je trouve que ça, ce gap-là, il est très clairement expliqué par Fassin, et pour c'est vraiment la bascule.
C'est un gros
nœud, quoi. Ah, c'est vraiment et c'est du point de vue méthodologique et puis voilà de intellectuel, c'est ça change tout en fait cette affaire là.
Donc on fait une pause musicale avec un autre morceau choisi avec une pertinence inégalée par José.
Yeah.
Vous venez d'écouter Cosmogonia, La Vida Igualitaria, prononcé avec un accent de vache anglaise pour le coup. Donc c'est un morceau brésilien de 1998, et donc qui parle de la vie inégalitaire, c'est ça, José ?
Égalitaire.
Égalitaire, d'accord. Égalitaire. Ok. Et donc, c'est évidemment, c'est choisi avec une grande, une grande cohérence par José, puisque ce soir, avec Jean-Mathias sur Jeudi Noir et sur Radio Libertaire, on vous présente un livre de Didier Fassin, ses leçons inaugurales au Collège de France, qui s'intitule De l'inégalité des vies. Et, dans la partie précédente de l'émission, on vous a présenté, si vous voulez, l'espèce de distinction qui pouvait sembler à la fois évidente et révolutionnaire chez Rousseau au XVIIIe siècle, entre les différences naturelles et les inégalités sociales, et pourquoi il ne fallait pas confondre les deux. Et finalement, Fassin nous propose, à la lumière d'une vision statistique de la société
et de l'inégalité,
c'est important aussi, oui, l'inégalité, de revenir sur cette distinction pour la travailler d'un point de vue historique et pour montrer que ce qu'on pouvait croire naturel, si on observe les individus séparément les uns des autres, peut devenir tout d'un coup historique et collectif si on l'observe de façon statistique, en se penchant sur des grands nombres. Et en particulier que, par exemple, on peut faire coïncider, par une corrélation, un taux de mortalité et un taux d'imposition. Ce qui fait que plus vous payez d'impôts, plus il y a de chances que vous viviez vieux. Parce que vous êtes riche, tout simplement. Alors, donc ça va peut-être de moins en moins de se vérifier, puisque les riches payent de moins en moins d'impôts, mais malgré tout...
ils sont de plus en plus riches.
Ils sont de plus en plus riches aussi, il faudrait voir.
C'est l'indicateur qui merde. Mais...
C'est ça, c'est l'indicateur qui est pourri. Et donc, c'est-à-dire qu'ici, il y a, à la fois l'héritage du 18e et des Lumières, et en même temps, sa perpétuation et sa réflexion et son approfondissement, qui font que, justement, malgré tout, on est toujours confronté à des gens qui, quand on leur repose, quand on leur fait part d'une espèce de vérité un peu sociale et collective, faut nous dire, mais moi j'ai des contre-exemples. Et en fait, ils raisonnent comme si les vérités statistiques au sujet de la société étaient présentées comme des espèces de vérités absolument universelles et nécessaires et individuelles et déductives.
Exactement. Ouais.
Alors que non, c'est plus le cas. On n'est plus dans la physique de la place. Mmh. On n'est plus dans une espèce de régime où un cadre où illustrer une loi absolument générale. On est plutôt dans des cas probables. Et voilà. À quel âge avez-vous le plus de chances de mourir si vous êtes issu de telle ou telle classe sociale? Et donc, à partir de là, évidemment, les contre-exemples perdent beaucoup de leur puissance. Sauf que, finalement, c'est des choses qui sont pas encore finalement passées, je dirais, dans les mœurs argumentatives. Ouais. C'est des choses que je pense que beaucoup de militants et militantes savent. Plus ou moins. Mais je pense que dans n'importe quel débat, vous aurez toujours le contre-exemple qui est censé montrer que non, la société française n'est pas si raciste que ça. Non, la société française n'est pas si sexiste que ça. Parce que je connais un tel qui. Et en fait, un tel peut exister, sauf que ça change absolument rien.
Absolument. Alors ça, c'est sur l'inégalité, effectivement, on est toujours un peu sur le titre, mais on rentre déjà même dans le contenu, hein, parce que, donc, en fait, c'est la présentation de ce que c'est qu'une conception statistique des inégalités, hein, c'est une anomalie statistique, donc c'est pas un tel ou un tel ou un tel, c'est à l'échelle d'une série de cas, on observe effectivement l'inégalité, et puis l'autre terme du titre, c'est le terme de vie, justement, et c'est là où, effectivement, il fait la référence à Foucault, hein, dont tu parlais, alors Foucault, ancien professeur au Collège de France aussi, extrêmement influent dans les sciences sociales, etc. Et en fait, il fait un parallèle. Alors, c'est intéressant aussi parce que à la fois, il reconnaît, parce que tout le monde, c'est pavlovien, hein, en fait, à partir du moment où vous parlez de la vie, il faut dire que Foucault a été un très grand penseur de la vie, du vivant et de la biopolitique, même si personne ne sait exactement ce que ça veut dire. Et en fait, en même temps, il se démarque assez subtilement et de manière très argumentée, je trouve, de ça. Alors, l'idée de Foucault, c'est quoi? C'est l'idée de Foucault, c'est que en fait, il y a une espèce de bascule dans ce que Foucault appelle la gouvernementalité, dans les techniques du pouvoir, c'est-à-dire que les formes de pouvoir politique classique, ça consiste, c'est le pouvoir de faire mourir. De faire mourir, et en fait, Foucault observe qu'à partir du 18e, il y a une espèce de bascule qui s'opère, et qu'en fait, c'est plus tellement ça qui définit le pouvoir, mais que le pouvoir se définit dans sa capacité à laisser ou à faire vivre certains, et pas d'autres.
Faire vivre et laisser mourir.
Faire vivre et laisser mourir, c'est ça. Hein. Donc, et c'est ce qu'il avait appelé la biopolitique, c'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir va impliquer en fait, tous les aspects de la vie, y compris dans ce cas-là de biologique, d'où la notion de biopolitique.
Et c'est aussi contemporain de l'apparition des statistiques et de la démographie. C'est le moment où le pouvoir commence à s'intéresser à la notion de population.
Des populations, exactement. Et en fait, ce que Fassin va faire, c'est qu'en fait, lui, il revendique son expérience et sa pratique en fait, de médecin pour justement à la fois confirmer en partie ce que dit Foucault et montrer que Foucault, en fait, rate, d'après lui, l'essentiel. C'est-à-dire que ce qui confirme chez Foucault, c'est l'idée qu'effectivement, on peut retrouver quelque chose de cet ordre-là dans l'émergence de la notion de santé publique. Alors ça, c'est pareil, ça recoupe ce qu'on disait juste avant. C'est-à-dire que la santé publique, en fait, on raisonne à l'échelle de la population. Donc, typiquement, campagne de vaccination.
Oui.
Un nouveau virus apparaît, il vient de Chine, on n'y connaît rien. Comment, quel est le calcul de coût-bénéfice qu'on va faire à l'échelle de la population? Qui on va laisser, en l'occurrence, effectivement.
C'est l'inoculation.
Exactement. Et il montre la différence de culture qu'il y a et la différence même d'approche fondamentale qu'il peut y avoir entre ça, une politique de santé publique qui résonne de manière statistique, et la médecine clinique.
Oui.
La médecine clinique, c'est quoi? C'est en fait, ça consiste justement à s'occuper d'un patient. D'un patient et d'un autre patient et d'un autre patient et d'un autre patient. Oui. Et en fait, du coup, dans ce cas-là.
Tu vas un peu vite, là, je trouve.
En tout cas, c'est un exemple qui prend.
C'est un
exemple
qui prend. Après, c'est la distinction entre la valeur et alors en anglais il a le terme worth, la valeur numérique, et puis là en français on a deux mots, on a un mot pour ça, la valeur.
Il tranche pas entre les deux. Il tranche pas entre les deux, mais simplement il montre qu'effectivement tu as une comment dire, il y a une bascule qui se fait là-dessus, et c'est qu'effectivement tu raisonnes pas de la même manière, tu raisonnes pas avec les mêmes concepts selon que t'es dans le cadre d'une médecine clinique qui va en fait sauver un patient à tout prix, ou le soigner à tout prix, et d'autre part, un raisonnement de santé publique où là, tu es obligé de prendre en compte une dimension statistique et raisonnes à l'échelle de la population. Alors, ça va dans le sens de Foucault, au sens où, effectivement, la santé publique devient une des prérogatives quasi régaliennes en fait, des États. Donc là, effectivement, il admet en fait cette espèce de virage biopolitique, sauf que, d'après Fassin, en fait, ce que Foucault manque dans son analyse, c'est justement une analyse des inégalités, des inégalités justement, face à la vie produite par le social. C'est pas simplement une production politique. C'est pas une production politique. C'est ça en fait que Fassin montre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une décision du souverain ou du gouvernement qui produit entière à elle seule ça. En fait, t'as un fonctionnement social qui statistiquement va produire des inégalités. Donc oui, sur Foucault, sur l'espèce d'intégration d'un raisonnement statistique sur le vivant à l'échelle de l'État, et en même temps, non, sur la capacité de Foucault de nous expliquer ce que va être une approche juste ou injuste, c'est-à-dire que c'est le truc qui n'est pas formulable.
Moi, je le formulerais autrement, sans doute un peu dans le même sens que toi. Il y a deux critiques à l'égard de la théorie foucaultienne de la biopolitique. Il y a une critique historique. C'est-à-dire que Fassin pense qu'en réalité, on peut observer des régimes politiques de type biopolitique bien avant le 18e. Et d'autre part, il y a aussi une critique politique. Et à mon avis, il vise un truc très très juste. C'est que, en fait, dans la pensée foucaultienne, il n'y a pas de place pour l'égalité et l'inégalité. De ce point de vue-là, Foucault, au moins de ce point de vue-là, est un nietzschéen. Et pour lui, il n'y a que des différentiels de force. Donc, moi, je pense que, alors, il le dit pas comme ça, Fassin, mais ça, c'est une de mes convictions intimes, une de mes hypothèses plutôt, ça peut être que, chez Foucault, comme il y a que des différentiels de force, l'égalité n'a pas vraiment de sens. Il y a des plus forts, il y a des moins forts, et c'est ça qui va faire la définition, en quelque sorte, des jeux de pouvoir. À partir de là, l'égalité est plus pensable, mais à partir de là, l'inégalité a plus grand intérêt non plus. Et donc, là, il y a quand même un souci, c'est que pour une pensée politique émancipatrice, ou à volonté émancipatrice, comme celle de Foucault, ne plus penser l'inégalité, c'est problématique, je pense.
Du point de vue effectivement de l'émancipation, mais c'est aussi un problème parce que si tu veux, justement, des statistiques comme celles que Fassin va ensuite produire, tout simplement sont impensables.
Oui.
Donc c'est pas simplement du point de vue de l'émancipation, c'est-à-dire que c'est aussi du point de vue des faits statistiques.
Et de la connaissance, tu vois.
Et de la connaissance en tant que telle. C'est-à-dire que ces faits statistiques-là, en fait, n'ont juste pas de place, en fait, dans une approche comme celle de Foucault. Or d'après Fassin, justement, ils sont essentiels et ils disent long en fait sur ce que c'est que la valeur effectivement attribuée par une société donnée à la vie des uns et des autres.
Ah oui.
Et donc en fait
effectivement ça aussi c'est un
il rate à la fois l'effet statistique et il rate aussi la dimension de valeur que ces faits illustrent.
Oui.
Donc c'est pas simplement une critique, il y a la critique historique, oui, t'as la critique politique aussi, mais je pense qu'il y a aussi une critique, y compris en termes de contenu, c'est-à-dire qu'en fait...
Qu'est-ce que tu nous donnes à connaître ?
Exactement, et c'est-à-dire que Foucault passe à côté, en fait, de ce type de fait statistique, et du coup, il s'interdit de réfléchir à ce que ça signifie sur les valeurs qu'une société va attribuer à la vie des uns ou à la vie des autres.
Alors ça, c'est compliqué, parce que malgré tout, tu as des remarques là-dessus chez Foucault, mais effectivement, elles sont peut-être formulées d'une autre façon. Mais parce que malgré tout, la différence de valeur des vies, il a écrit un petit texte qui s'appelle « Des vies infâmes », c'est quelque chose sur quoi il tourne quand même. Pour le coup, je sais pas s'il irait jusque-là. Mais moi, c'est pour ça que je m'en tenais plutôt au côté l'inégalité, tu vois. Parce que il y a pas de place pour l'inégalité en un sens comme une revendication du genre nous sommes inégaux, c'est affreux, il faut promouvoir l'égalité. Ça, chez Foucault, je le vois pas trop. La différence des valeurs de vie, par contre, tu vois, il y a tout un truc sur les vies minuscules, les vies que l'État n'aperçoit pas, les vies qui passent sous la grille, en quelque sorte, des institutions qui produisent des connaissances et du pouvoir aussi. Donc là-dessus, à mon avis, c'est quand même c'est peut-être pas ça que je critiquerais pour le coup dans l'approche.
Plus nuancé. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, ce qui l'intéresse, c'est justement d'essayer à la fois d'articuler justement des faits statistiques qui sont mesurables, qui sont quantifiables, et en même temps cette notion de valeur et donc de valorisation et de dévalorisation de la vie des uns et des autres. Oui. Et alors du coup, il montre qu'en fait, sur cette approche-là, en général, il y a deux grandes manières d'approcher cette question-là. Soit du côté des religions ou de la philosophie, où on va avoir tendance à plutôt attribuer une valeur absolue à la vie, l'idée que la vie n'a pas de prix, en quelque sorte.
C'est une approche éthique.
Une approche éthique, une vie est égale à une vie. Et il montre que il y a aussi une autre approche qui existe depuis la naissance des statistiques, en fait, qui consiste en fait à avoir une approche relative de la vie.
Économique.
Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec lui là-dessus, parce que c'est aussi une conception philosophique, c'est-à-dire que ceux qui citent, ce sont des philosophes, c'est-à-dire qu'ils citent Godwin, ils citent les utilitaristes comme Bentham, c'est aussi philosophique, simplement, effectivement, c'est une autre approche de la valeur qui consiste justement à essayer d'évaluer une vie en termes de coûts et de bénéfices. Alors, il faut pas tout de suite grimper au rideau en disant mais il y a les monstrueuses immorales que c'est. Il donne des exemples très simples. Il dit par exemple comment on dédommage. Comment dédommage la mort de quelqu'un, par exemple, je sais pas, moi, dans le cas d'un couple, si t'as un conjoint ou une conjointe qui meurt, est-ce qu'on peut effectivement réclamer, est-ce qu'on peut mesurer une forme de dédommagement à celui qui survit? Et du coup, dans ce cas-là, effectivement, il montre que les assurances ont essayé de produire des techniques pour essayer de mesurer le capital représentait l'apport au foyer, en quelque sorte, à la porte en ressources au foyer que représentait le défunt, et du coup, calcule effectivement des indemnités.
Qu'est-ce qui a été perdu?
Exactement. Et donc là, il dit que, évidemment, du coup, quand tu regardes ça d'un peu plus près, ça devient vite très intéressant, parce que la manière dont tu vas évaluer ce capital-là, justement, elle est normative. Et il prend un exemple, il dit par exemple, il cite les dédommagements qui ont été versés aux victimes des attentats du 11 septembre.
Ah oui.
Voilà. Et il montre qu'effectivement, selon les profils sociaux et raciaux des victimes et nationaux, les indemnités ont varié de 1 à 10. L'autre manière d'évaluer, et c'est des questions qui sont très concrètes, ça va être la question, par exemple, si tu souscris une assurance vie, ça va être d'évaluer, en fait, justement, là, tu es obligé d'évaluer un risque de mortalité, tu es obligé de te projeter sur la durée de vie espérable pour la personne qui va souscrire l'assurance, et donc là t'es autre chose, et t'es toujours dans une valeur relative, mais il va falloir que tu produises un chiffre à un moment, c'est-à-dire voilà à combien tu fixes effectivement les cotisations, à combien tu fixes les retours d'indemnité au moment où l'assurance se déclenche, et donc en fait c'est des questions très concrètes et elles sont posées. Alors effectivement c'est une approche économique, oui, mais c'est pas qu'une approche économique, c'est-à-dire qu'effectivement on est dans un raisonnement utilitariste qui est obligé de mobiliser des outils, alors des questions de valeur, bien sûr, donc c'est bien des questions éthiques quand même, à un moment donné, et aussi des questions de raisonnement statistique. Hein? Et donc la question, d'après Fassin, bah, c'est d'essayer de voir comment on se démerde là-dedans, parce qu'effectivement, valeur relative, ça a le mérite de la cohérence, et beaucoup de gens ont envie de défendre effectivement une approche comme celle-là, spontanément, effectivement, c'est le cas. Mais en même temps, tu ne peux pas balayer non plus la question de la valeur relative, et donc lui, ce qu'il veut montrer, c'est justement que, en fait, mais finalement, cette distinction-là, c'est une piste pour penser la valorisation des vies, mais qu'en même temps, justement, les faits statistiques que produisent les sciences sociales peuvent aider justement parfois à comprendre plus vite que ce débat entre valeur absolue et valeur relative. C'est-à-dire que dans les statistiques, tu lis des valeurs. Tu lis des valeurs qui sont pratiquées, qui sont pratiquées de fait.
Ah bah c'est clair, là il dit, par exemple, toi tu disais de 1 à 10, les différences d'indemnisation dans le cas des victimes. Alors il dit, voilà, ainsi les écarts sont-ils de 1 à 8 parmi les victimes du 11 septembre aux États-Unis, donc en fonction de leur profession et de leur sexe, et d'un à 200 en Irak, selon que les victimes sont des civils nationaux ou des soldats états-uniens. Là, tu as une différence de 1 à 200. Et donc, effectivement, là, pour le coup, il y a des valeurs politiques qui sont directement impliquées dans ce type d'évaluation. Voilà, la vie d'un national irakien ne vaut pas la vie d'un américain, en termes de remboursement.
Et après, effectivement, et c'est là où il utilise son exemple là, des chocs qui peuvent exister entre la médecine clinique et les raisonnements en termes de santé publique. Et c'est des questions qui sont intéressantes philosophiquement et moralement, je trouve, parce qu'il dit, effectivement, du côté de la médecine clinique, on est plutôt du côté de la valeur absolue, c'est-à-dire qu'il s'agit de sauver un patient quel que soit le coût, en fait, quoi qu'il en coûte. Voilà. On est dans quoi qu'il en coûte. Et en santé publique, non, il faut que tu fasses un calcul de coût-bénéfice. Et il donne un bon exemple, je trouve. C'est sur il prend le cas des réponses internationales à l'épidémie de sida sur le continent africain. Alors, ça, c'est des choses qu'il connaît, hein, parce qu'il a travaillé dessus et il a travaillé dedans. C'est-à-dire qu'il a effectivement en tant que médecin. Et l'exemple intéressant, il nous dit, voilà, par exemple, sur ces réponses, il nous dit, les réponses internationales à l'épidémie de sida sur le continent africain dans les années 2000 fournissent une illustration réelle, cette fois, de l'écart entre les deux logique, hein, donc médecine clinique qui plaide pour une valeur absolue de la vie et santé publique plutôt pour une valeur relative. Les praticiens de la médecine clinique, dit Fassin, qui voulaient utiliser les nouveaux antirétroviraux pour traiter leurs patients, se sont souvent opposés aux experts de la santé publique dont les enquêtes montraient que, compte tenu des ressources limitées, la prévention par les préservatifs et l'éducation à une sexualité protégée s'avéraient moins coûteuse et plus efficace que le traitement. Et après il explique que voilà, c'est intéressant en même temps qu'il faut nuancer cette opposition là, mais on voit bien là effectivement, si tu veux, deux manières de considérer la vie humaine et la place que tient justement le raisonnement statistique et la notion de calcul de coût-bénéfice, hein, dans laquelle tu places la valeur de la vie elle-même en quelque sorte. Et oui, alors effectivement, ça veut dire qu'en termes de santé publique, il vaut mieux investir sur des préservatifs dans le cas d'une épidémie de sida et sur des formations à une éducation à la sexualité protégée, qu'effectivement, statistiquement, tu vas sauver beaucoup plus de gens de cette manière-là, plutôt que d'investir sur des rétrovirus qui vont te sauver... Des rétroviraux, pardon. Oui, rétrovirus, il y en a qui investissent aussi. Hein. Où là, tu vas effectivement sauver un nombre limité de personnes et abandonner les autres, en quelque sorte. Hein. Et c'est un dilemme, alors c'est un dilemme assez classique, hein, mais qui n'est pas que économique, en fait, hein, qui me semble être aussi moral et politique, hein, en un sens. Donc c'est tout ce type de distinction là qu'on trouve chez lui sur les questions de l'espérance de vie.
On va peut-être faire une pause d'abord et puis ensuite, parce que la question de l'espérance de vie, elle est super importante, elle clôt sa conférence il fait plein de distinctions super. Donc on fait une petite pause musicale et on vous retrouve.
Smoke from the factories. I'm really not concerned with the ecology. Right now I'd be happy. I can't see myself on the DMZ, or living with a wife and a family. I don't need a shrink to help me think. I don't wanna let you in, I need a drink.
Life is cheap, life is cheap, life is cheap, life is cheap.
Bonsoir à tous, et bien sûr Radio Liberté à 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste sans Dieu ni Maître ni Publicité, et c'est Jeudi Noir qui reprend pour sa troisième partie ce soir. Vous venez d'entendre un Teenage Popeye, c'est le nom du groupe, un groupe texan, voilà, et le morceau est de 1981, et le titre de ce morceau, évidemment, il a une espèce de, voilà, d'évidence statistique de 1 sur 1, c'est « Life is cheap ». Et évidemment, c'est un titre en rapport avec le texte dont nous parlons ce soir avec Michel, texte de Didier Fassin. C'est sa première leçon inaugurale au Collège de France qui s'appelle « De l'inégalité des vies ». Alors, on peut peut-être dire quelques mots maintenant sur des exemples un peu concrets qu'il cite dans le livre pour montrer comment il essaye de mobiliser justement ses outils statistiques, ses réflexions sur les différentes manières d'accorder de la valeur à une vie humaine, soit effectivement avec une approche, voilà, une vie égale une vie de manière absolue et la vie n'a pas de prix, soit au contraire de mettre le doigt ou les mains dans le cambouis, je dirais, et d'essayer de se demander si effectivement si elle peut pas avoir un coût ou un prix quand même, ou si on peut pas effectivement l'évaluer à l'échelle statistique notamment. Et alors ça, c'est quand on est effectivement dans le cadre de la santé publique et de son domaine de départ, Fassin. Mais évidemment, si on accepte effectivement ce problème-là, je dirais, parce qu'il y a beaucoup qui le refusent et qui l'éludent, ça amène aussi effectivement à produire des analyses sur les inégalités sociales, pas simplement en termes de rapport à la santé ou en termes d'espérance de vie, mais aussi effectivement les inégalités au sens plus large, alors les inégalités de richesse, en quoi effectivement ça conditionne la valeur de la vie, le niveau de richesse conditionne la valeur de la vie, en quoi le genre masculin ou féminin conditionne la valeur de sa propre vie, en quoi la race conditionne évidemment cette valeur aussi de la vie dont on est dépositaire, et en quoi évidemment on peut aussi panacher tout cela pour essayer de montrer quelles sont les valeurs. Alors, c'est pas les valeurs de fait, mais comment effectivement les faits statistiques font apparaître en fait des choix sur la valeur attribuée à telle ou telle catégorie sociale, pas telle ou telle personne. Oui. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
Ou telle ou telle catégorie raciale.
Exactement, telle ou telle catégorie sociale, raciale, ou telle catégorie genre, en l'occurrence. Alors, il y a beaucoup d'exemples très, très éloquents, je trouve, dans le livre, même si c'est très court et très accessible. Il prend le cas notamment, alors, on en parlera un petit peu après, toujours son approche aussi, ça consiste à essayer de... Il part des politiques de santé, et il part effectivement des problématiques de santé publique, mais justement, il montre comment justement la question de l'espérance de vie, alors on l'a mentionné tout à l'heure, l'espérance de vie dans les deux sens du terme, c'est-à-dire effectivement la durée qu'on peut attendre, effectivement la durée biologique sur laquelle on peut tabler, et puis l'espérance de vie, les espoirs en fait qu'on peut effectivement, ce qu'on peut attendre d'une vie, et comment les deux se conditionnent, voilà. Et comment cette espérance de vie, elle est, et donc la valeur que va prendre notre vie, est largement conditionnée par des facteurs sociaux, raciaux, etc. Donc alors, 2019, c'est intéressant, parce que c'était en janvier 2019, donc il était en plein mouvement des retraites, dans sa deuxième, contre la réforme des retraites, dans sa deuxième leçon, il le dit d'ailleurs, et il rappelle effectivement ça, en disant que justement, en fait, la grande absente, la donnée absente, le fait, absent des débats, c'est justement l'inégalité d'espérance de vie fait selon les catégories socio-professionnelles.
Les faits sont accablants.
Alors il rappelle, il dit effectivement, les niveaux de vie réels sont pas analysés, ce qui permet pas de prendre en considération page 31. Ça ne permet pas de prendre en considération l'appauvrissement des catégories modestes et l'enrichissement des catégories supérieures. Et il cite, si on compare les 5% les plus aisés et les 5% les plus pauvres, la différence d'espérance de vie des hommes, mesurée cette fois à la naissance, est de 12,7 années. 13 années. Il est donc essentiel que la mesure des inégalités de mortalité intègre l'ensemble de la population et tienne compte de l'évolution de sa structure économique. Et donc, ce qui nous montre, c'est quoi? C'est pareil, hein, formule toujours de Fassin, les inégalités devant la mort en France reflètent assez fidèlement les différentes expressions des inégalités sociales qui se sont fortement accrues depuis les années 70, sous l'effet d'un durcissement des pratiques économiques, d'un recul des politiques sociales qui ont conduit à une précarisation des emplois et une paupérisation des classes populaires. Donc là, on est effectivement sur l'analyse des inégalités sociales. Il nous explique qu'effectivement, ce n'est pas le cas qu'en France. Il y a une très belle analyse aussi sur les États-Unis. Il nous dit effectivement l'exemple le plus probant, c'est certainement les États-Unis, dont les dépenses de santé par habitant, et c'est là où on voit le gap.
Mais même sur la France, c'est un point sur lequel tu es passé qui est intéressant, parce qu'il intègre les inégalités sociales. Il ajoute, même sous ces deux conditions, donc sociales et comment dire, la mortalité et la structure économique, il dit, même sous ces deux conditions, deux points aveugles demeurent cependant, l'un en raison de difficultés méthodologiques, l'autre à cause d'obstacles à la fois idéologiques et juridiques. Il dit, d'une part, les enquêtes portent sur les seules personnes recensées. On dispose rarement de données concernant les plus vulnérables, à savoir celles sans domicile fixe ou sans titre de séjour. Et d'autre part, il ajoute, les caractéristiques ethno-raciales ne pouvant être enregistrées en raison des réticences exprimées à l'égard de cette mesure et des contraintes légales la restreignant, on ignore les disparités d'espérance de vie affectant les minorités, alors même qu'on les sait particulièrement touchées par le chômage et la pauvreté.
Bien sûr.
Chaque fois, j'aime bien, il enfonce le clou, quoi. C'est, il pose un truc et puis... Poum. Mais ouais, et en plus il y a ça.
Ça, à la limite, ça serait quelque chose d'un peu plus foucaldien. Ça va effectivement, c'est une espèce de complément parce que c'est les innommables quoi. C'est les innommables, c'est les innommés, c'est les indignes, c'est les indignes même d'être mesurés.
C'est ça.
Quelque sorte,
oui, on les mesure même pas.
Et donc tu mesures même pas. Et donc sur les États-Unis, hein, il rappelle en fait c'est pareil, des choses qu'on répète pas assez, hein, c'est que les dépenses de santé par habitant sont de loin les plus élevées de la planète, elles font plus du double de celles de la France. Simplement, évidemment, c'est des dépenses privées. Mais l'espérance de vie des habitants les place au 34e rang mondial derrière Cuba et le Chili. Le pays occupe la 29e place pour la mortalité infantile, la 42e pour la mortalité juvénile et la 51e pour la mortalité maternelle. Médiocre résultat dans un pays où 27 millions de personnes, soit le 10e de la population non âgée, n'ont pas de couverture médicale. Ces médiocres résultats traduisent en fait l'impact de profondes disparités qui font reculer les moyennes nationales. Donc voilà, on a ces exemples-là. Ils montraient donc une étude au début des années 80, avant l'épidémie de sida, révélait que parmi les hommes noirs du quartier d'Harlem, la mortalité ajustée sur l'âge était le double de celle des États-Unis blancs et leur probabilité jusqu'à 65 ans
de vivre jusqu'à 65 ans
plus faible que celle des Bangladais. Donc effectivement, ça c'est des données qui ne peuvent apparaître que si effectivement tu fais des
et
statistiques.
Et en plus, là ils ajoutent aussi l'espèce de dernier petit clou, et il dit contrairement à ce qu'on aurait pu penser, cette situation n'était toutefois pas principalement le fait des homicides et des overdoses, mais d'une surmortalité par maladie cardiovasculaire. Et donc là, on peut sans doute aussi pointer une mauvaise alimentation et des conditions, comment dirais-je, un suivi médical insuffisant.
Et il demande, alors, parmi les facteurs, donc bah, voilà, on a parlé du facteur social, catégorie socio-professionnelle, comme on dit, mais ça, c'est le premier étage de la fusée. Donc, le critère racial, évidemment, joue. Le niveau de diplôme et le niveau de scolarité, évidemment, joue.
Mais il est corrélé au critère racial.
Il est corrélé au critère racial, mais il montre que, alors voilà, par exemple, si on examine l'influence de la scolarité, les hommes blancs qui ont eu un parcours universitaire vivent 14 ans de plus que les hommes noirs qui n'ont pas terminé leur cycle secondaire, 14 ans. Tandis que les hommes noirs ayant fait des études supérieures ont une longévité de 4 ans plus faible que les hommes blancs ayant suivi le même cursus, mais de 7 ans plus élevée que celle des hommes blancs ayant interrompu leurs années au lycée. C'est là où on voit la complexité des choses, c'est qu'effectivement un noir diplômé a une espérance de vie de 7 ans supérieure à un blanc non diplômé.
Mais il reste
4 ans inférieur à celui d'un blanc qui aurait le même niveau de diplôme. Et c'est ce qui l'amène à souligner que justement, tu peux pas réduire la question des discriminations raciales uniquement à une question de niveau de revenu ou à une question de diplôme.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a bien un facteur racial en tant que tel. Et ce facteur est un fait statistique.
Oui.
C'est un fait statistique. Et effectivement, donc c'est intéressant ça aussi, parce que si tu veux, pour le coup, par rapport à une analyse marxisante, on va dire un peu vite fait, on voit que voilà, ça fait partie des angles morts que la statistique te réintroduit en fait dans la machine.
Voilà.
Et du coup, comment tu expliques ça du coup, de cette manière-là Évidemment, il fait la même analyse sur la question des inégalités entre hommes et femmes. Alors là, il dit que c'est aussi intéressant ce qu'il dit parce
qu'il va introduire le biographique.
Exactement, parce qu'en fait, il montre que là, en fait, on peut pas se contenter d'avoir pour le coup une approche. Alors, il est plus uniquement dans la statistique. Tu peux pas te contenter d'avoir une approche uniquement quantitative parce que souvent, tu observes, même si ça diminue l'écart, une espérance de vie quantitative supérieure chez les femmes que chez les hommes.
Y compris chez une femme ouvrière.
Chez une femme ouvrière.
Par rapport à un homme cadre.
Exactement.
Sauf que,
et c'est là où effectivement il introduit cette deuxième dimension dans l'espérance de vie, sauf qu'effectivement, en termes de qualité de vie, c'est-à-dire de réalisation de soi.
Et d'espérance de vie en bonne santé.
Et d'espérance de vie en bonne santé, tu as raison aussi. Ben là, en fait, pour le coup, les écarts se comblent très très rapidement. Et que du coup, effectivement, là aussi, tu peux pas séparer entièrement, en tout cas, la dimension quantitative, la dimension qualitative, et ce qui va montrer aussi. Alors, en tout cas, c'est pas des idées. Pour le coup, c'est peut-être moins original, mais ça a le mérite d'être rappelé, et surtout, ça vient dans la continuité des données qu'il donne avant. Et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant. Il dit qu'évidemment, en même temps, une qualité de vie dégradée, c'est évidemment une quantité de vie qui va diminuer.
Oui.
Voilà. Et donc en fait, cette séparation, elle a une dimension un peu artificielle. C'est pas mécanique, c'est statistique là encore. Hein, c'est statistique, mais évidemment une qualité de vie dégradée, en fait, voilà, une vie de merde, ou en tout cas perçue comme telle ou considérée comme telle par la société, va avoir évidemment des impacts sanitaires. Et donc effectivement réduire aussi les espérances de vie. Alors là il prend des exemples. Bon, il y a un témoignage qui est assez glaçant là, une femme sud-africaine,
malade du sida.
Malade du sida, mère d'une fille de 12 ans qui est ostracisée par sa communauté, effectivement, et qui montre effectivement comment peut-il, alors que en fait elle a eu une scolarité prometteuse, brillante, elle a eu une bourse et puis un incendie qui brûle la maison, les documents de la bourse disparaissent, elle part pas à l'étranger, et à partir de là, la valeur sociale qualitative en fait de son existence fonctionne pas, elle chute libre, elle est contaminée par le sida, et donc effectivement derrière
par son mari qui la trompe,
et donc derrière évidemment l'espérance de vie effectivement est morte à 30 ans en l'occurrence, donc ça c'est aussi effectivement un point, et le du coup, effectivement, il y a ça, voilà, il y a ce premier étage, c'est ça, c'est raisonner de manière statistique. Deuxième étage, la vie est quelque chose qui peut s'appréhender de manière quantitative par ce raisonnement statistique, mais ça n'évacue pas la question de la valeur, et on ne peut pas se contenter de penser en termes de valeur absolue sur des questions de principe. Trois, en fait, cette valeur, effectivement, elle a une dimension double, effectivement, à la fois quantitative et qualitative, c'est-à-dire que c'est à la fois la durée, effectivement, et ce qui la réduit, hein, les facteurs sociaux, raciaux ou de genre qui la réduisent, et en même temps une dimension qualitative. Et d'où effectivement cette idée que l'espérance de vie, effectivement, il faut la comprendre dans les deux sens. Hein. C'est les espoirs effectivement qu'on place aussi dans la vie et qu'on se sent autorisé à placer du point de vue en fait des valeurs qui sont en cours dans la société où l'on vit. Il y a effectivement donc aussi toutes des analyses sur les inégalités hommes-femmes et sur les migrants. Effectivement, tu l'as dit. C'est une de ces grandes causes. Hein. Il a commencé en Inde, en fait. Hein. Il a dans les mouroirs de Calcutta, hein, en fait. Et puis il a fait plusieurs missions aussi médicales en médecine humanitaire en Afrique. Donc il y a aussi ça. Alors bon, c'est sur les chiffres, hein, comme tu disais tout à l'heure. Donc c'est pareil. Hein. Je rappelle, en 5 ans, 17 043 personnes mortes en tentant de traverser la Méditerranée.
Enfin, recensées.
Recensées, hein, selon les statistiques officielles de l'Organisation internationale pour l'immigration. On ignore en revanche le nombre de noyades, dont ne demeure aucune trace, sinon dans la mémoire des éventuels survivants. Et plus encore, le nombre de décès survenus tout au long de pérégrinations qui, des régions subsahariennes au Moyen-Oriental, aux côtes méditerranéennes et au-delà dans la traversée de l'Europe, ne sont pas même enregistrés.
Ils sont innombrables, littéralement.
Innombrables, voilà. Et d'ailleurs, personne ne les dénombre. Oui. Voilà. Et ça, je trouve ça intéressant aussi parce que, en fait, on raisonne en. Là, c'est un raisonnement en masse et pas en statistique. Hein. Et voilà, c'est comme quand on parle, voilà, on parle de Gaza, on parle, voilà, 2 millions d'habitants.
Ouais.
Ok, ouais. Bon. Et le ratio actuellement, il va monter, on est à 1 mort pour 1000. En fait, ce qui est du jamais vu dans aucun conflit, précédent. Mmh. Hein. Donc, statistiquement, et raisonner en masse, donc en raccourci massifiant ou généralisant, c'est pas la même chose que raisonner en statistique. Hein. Et effectivement, donc, sur la question des migrants, c'est aussi un point intéressant. Bon, beaucoup de choses, quoi. Hein, ouais. Beaucoup de choses dans ce petit texte-là. Donc, on recommande.
Donc, voilà. Didier Fassin, De l'inégalité des vies, c'est édité au Collège de France en collaboration avec Fayard. Et voilà, donc, petit ouvrage assez simple à lire, mais comment dire, instructif.
Ouais,
très riche. Donc, ouais, on vous le recommande.
Et vous pouvez retrouver, bien sûr, l'émission, comme d'habitude, hein, sur Jeudi Noir, gurdulu.org, avec les archives des émissions précédentes.
En guise de couplet, le silence est mon plus beau bijou, mais rares sont les fois où je porte complet. Je me complais dans ma merde et dans mon malaise, quand la fadeur du monde donne de la saveur à mon mal-être. Dans la rue j'ai pris des coups, mais j'ai appris quand je vois le coût de l'année scolaire, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Où est l'amour de l'eau dont tu as fait ma vie? Maman, ta mort m'a appris depuis la capote des systématiques. J'ai l'âge ingrat où on croit qu'on comprend tout. Même si je dis que je m'en fous, je ris un peu, mais je pleure beaucoup. Tout va trop vite, j'ai du mal à suivre le rythme. Alors je vis à contre-temps jusqu'au jour du contre-coup. Et moi je rappe, j'essaye de rester calme, mais les mots m'emportent. Le diable au corps de mon vivant, je sens déjà ma mort. Aux premières loges, je suis artisan de mon sort. J'aurai la VHS en guise de nuit de noces, car j'ai choisi cet homme. Après les coups de couteau dans le dos, j'ai compté l'amitié parmi les 7 péchés capitaux. Je rappe au féminin, pas pour autant féministe, car je ne peux jurer sur la Bible que je ne suis ni pute ni soumise. Comme une jouissance à la frontière entre le mal et le bien, j'ai commencé en bas de l'échelle pour mieux faire grimper les miens. Ils tentent d'entraver mon chemin, me couper les mains pour me couper les liens. Ça fait mal, mais ça fait rien. Ma liberté n'aime pas les cellules, n'aime pas les serrures, les procès, les procédures. J'en place une pour mes 6 stades partout. Big up aux lyricistes bantou, signé Wamusha Lamuntu.
Eh hey, petite sœur, pareil tu donnes tes nouvelles. Je te croyais gorgé de rancœur, tu es adulte, t'es le vent de tes propres ailes. J'ai tellement pris en cachette pour que tu réapparaisses. Je voulais tellement te dire combien l'existence est rude, combien elle pèse. Le jeune con que j'étais parti avec maman. Je crois qu'au début je voulais juste éviter qu'elle ne dorme toute seule. Depuis, les étés sont courts, les hivers interminables. J'ai appris à prendre soin de nos sœurs, je remplaçais les affaires manquantes dans leur cartable. Tu sais, je m'en voudrais jusqu'à la fin de mes jours de t'avoir maltraité, d'avoir osé salir l'amour serait-ce. Si tu as encore de la colère en toi, je pense que c'est un peu à moi que tu la dois, crois-moi. Mon reflet dans le miroir me donne envie de gerber. Tu étais une étoile filante, j'ai manqué de t'estropier. Je ne me cherche pas d'excuses, j'étais un gamin perdu de plus. J'ai presque assassiné ce qu'il y avait de beau en toi, mes gestes étaient si brusques. Si on pouvait revenir en arrière, tous ces coups, c'est à moi que je les donnerais. Pas que ce soit la solution, mais au moins toi, je t'épargnerai. Je n'ai jamais su dire je t'aime, incapable de vivre autrement que dans la violence extrême. Je peux vivre dans la culpabilité, mais je ne veux pas que tu vives dans la haine. Quand cette plaie règne, elle assaisonne ta vie, saveur malsaine. Cette lettre pour reconnaître mes fautes, en espérant que le calme et la paix feront de toi leur hôte, serait-ce. Thank you.